first thing is to open the discussion on what Philippe has just said. So if anybody would like to raise a question or... Wait, we need a microphone so we can have the translation of your question can be translated.
I really picked a lot of ideas shared with us. But I have the concern I have is there was a particular word you have used, manipulation. The reason I'm bringing this up is that the human rights, I'm sorry, it's open. Human rights are development. And I believe that and civil society in general.
You should use the mic with the cable, so it's coming to you. It's just over there. We have a Wi-Fi connection problems with the mics, which are not connected, which are not connected by a cable. So please use the mics, which are just there for your.
Okay.
Please, thank you.
Thank you. The reason I'm asking this is because when you work with government at the national level, you want to send a report that is very transparent. And while I know you have to dialogue with friends, like Josh was telling us yesterday, you have to lobby some of the other countries to make sure some of the recommendations are there. I have read so many recommendations. I developed matrix to share with governments on how to make them more measurable and for implementation by the different sectors. But what I find is that apart from the repetitions from so many countries, some of these recommendations are actually not realistic. Some of them have already been done. Some of them are not true. Because, I mean, I work with UNICEF, and there is nothing to hide when governments have taken actions that has to do with issues that on development or survival. So my concern is the role of NGOs, and the reason why I'm here is I really want to know the role of civil society, the role of the UN in helping governments. And in one of the recent reports, Eritrea is the country where I work, right? I don't come from Eritrea, but I work in Eritrea. And they're very sensitive to human rights issues. But the question is, you are from Human Rights Watch. Even if you watch a child from doing what is wrong, there is need for capacity building, socialization, and stuff like that. What is the role of civil society in assisting government to make sure they fulfill their obligations and not policing? Because there is an approach of policing that actually deters government from responding positively to the issues around human rights. And it annoys them. It just puts them off, particularly when you have recommendations that are actually not true. The report for Eritrea, while I know there are a lot of human rights violations which should be addressed, they accepted only 50% and rejected the others. And it was so annoying to them. And they call us the UN, the US watchdog. So it has to be collectively done. Because if you come from the top-down approach, the bottom-up approach will refuse most of these things. And then on the long run, it just becomes something that evaporates with time. So those are my concerns. And I was a little bit hesitant about the word manipulation. Thank you.
Can I just ask you to present yourself? And can I also ask everybody when you take the floor just to present yourself, because the people here at the table don't know who you... Could you please just...
Thank you. My name is Gbemi Akinboyo. I work with UNICEF Eritrea as the Chief of Child Protection. Thank you.
Thank you very much.
Philippe, répondre déjà ou bien?
Okay. One of the big challenges of the UPR, as we saw during the first cycle, is that there is no independent expertise which can check allegations which are made during the debates. I mean, yes, there are some recommendations which are not in line with international human rights law. There are some recommendations which are also off targets. And that's often a problem. There are some recommendations which are not appropriate to the countries reviewed, and basically the problem is that there is no independent expertise which is feeding into the process to check whether the recommendations are wrong or inappropriate, but also whether the governments under reviews are actually telling the truth or not. And could see many governments being simply defensive, rejected allegations, saying we don't have political prisoners, saying we don't have problems with women's issues, etc., while actually they are. So this element of truth, independent analysis of the statements is completely absent from the UPR, and that's a big issue of that particular mechanism, but which can be overcome by using other UN human rights mechanisms, like the treaty bodies, like the special procedures, which are much more, of course, well, which are more independent than governments themselves, and which are doing much more a greater work of human rights expertise and analysis. So dealing with this problem of the lack of expertise within the UPR could be done by working with other mechanisms. And the manipulation comes from all sides. Now, the role of civil society in assisting governments in implementing recommendations is also very important. And that's definitely something that national NGOs which have capacity to do so at the national level, more broadly speaking, should be doing. And you know, the starting point is to use the recommendations as a way to encourage all actors to work together on certain issues. Now, the point about unrealistic recommendations. We saw a number of unrealistic recommendations. From our perspective, the most unrealistic ones are the ones which are too vague, because they don't, they look off target again, because it's difficult to see where we can go. I mean, there is always an idea of progressive implementation of human rights obligations, in particular on economic and social rights, and a vague economic and social rights related recommendation is difficult to use in the follow-up process, and can also look very easily quite unrealistic to implement, while easy to accept for a government. There is a microphone here.
Okay, thanks, Philip. I'm Davestos James from Liberia. I work with the Foundation for Human Rights and Democracy. You just did a few things which is one of the lessons learned, that your council in Geneva or UN agency don't have the expertise to monitor the implementation of the recommendations. With that situation, like in our case in Liberia, in most instances, the UN agencies and government, they are brothers and sisters, in a sense that they work on international instruments or agreements for the sake of donor aid or support, leaving the gaps or the challenges of implementing what has been agreed upon at the international level. Going back home, civil society has not really been fully part of it. Given the situation of the UPR, is not a court, it's not a human rights court, but we see it that it should not be just a mayor meeting coming to Geneva or going to New York for meeting. After that, you go back home and that be the end. For us, we want to see some actions. So what mechanism can you put into place from Geneva or from the international community level to work with other stakeholders or non-state actors, including civil society back home, to ensure that at least they have some level of expertise home, because they know the issues, they know the problems at country level, so that they can work closely with government and those UN agencies to ensure compliance to a certain level. Yeah. Because most civil society don't have the support. In our country, Liberia, civil society and government, there's some clash and conflict in the sense that we mostly disagree on a lot of human rights issues. We disagree. is also in some countries, civil society and government, they disagree. So civil society don't have the support. They don't have the actual support to do most of the job in terms of monitoring, in terms of ensuring check and balances on those instruments that have been signed at international community level. So what action can you put into place to help civil society, home countries, to ensure that the implementations is into place? Thank you.
Okay. Now, you definitely pointed out the major problem of the mechanisms, which we all saw since the beginning of it. So, yes, NGOs, civil society is the critical voice which can contest the assertions of the governments of the various governments reviewed who will have an interest to tick as many boxes as possible to justify that they implemented many, many recommendations, while the result is often not that bright. Maybe one piece of advice could be that NGOs should NGOs could actually reach out to embassies in your own capitals of governments which made recommendations on which you want to use, to empower them and make them responsible for encouraging your own government to make progresses if they accepted the recommendations. Of course, your voice is important domestically. You can raise it at each of the meetings that you may have with officials from various governments. But your voice remains, as you pointed out, there are often conflicts between governments and NGOs, misunderstandings, mistrust sometimes. But one of the things which could be useful is to go to see and to meet with the government, with the embassies of the government which made a recommendation on which you are working, to find ways to keep pressure at the domestic level during the implementation cycle, either by reminding to the government that this recommendation has to be implemented, or by funding projects, funding specific policies of the government, or funding projects of NGOs to monitor the implementation or facilitate the implementation of that particular recommendation. For example, if Germany made a recommendation to address torture in Togo, Germany would have a responsibility to continue to engage with the Togolese government and civil society to ensure that that recommendation is actually implemented. Governments which made the recommendations are the ones who own them politically. And if they don't do any work in the course of the cycle, it also affects the pressure on the government to actually implement it. So that might be something that we could think of as part of the implementation between the second and the third cycle, how to engage more governments which made the recommendations to be the one pushing for their implementation. I'm not sure it responds completely to your questions, but maybe that's a piece for reflection. You have a mic here if you want.
Thank you. My name is Samson Salamat, and I come from Center for Human Rights Education, Pakistan. Well, my question is related to the recommendations. We learned that, as you also said, that most of the time or sometimes the recommendations are vague. And I would like to ask you, what measures do you suggest to ensure that the recommendations that come, they are very specific and they are target-oriented? And also, after the review of any country, during the adoption phase, the governments, they refuse to adopt certain recommendations. And in that case, what particular role NGOs, human rights organizations, can play that the recommendations not adopted or accepted by the governments can be addressed? Thank you.
Okay. On the first point, vague recommendations. As a matter of fact, we could see that many delegations speaking during the review of your countries are often copying and pasting a lot of inputs coming from NGOs and a lot of recommendations which could have been drafted by NGOs. And the reality is that the most specific recommendations were actually suggested by NGOs, national, regional, or international. So a lot of effort, in my view, has to be made to ensure that the recommendations which you would include in your advocacy documents are more specific and more, as you said, target-oriented. And it's maybe a job that we have to do ourselves to make our recommendations better drafted and to draw more visibility to them. Diplomats don't have the capacity to do it alone. They are not human rights experts. They are not technicians. And therefore, it's easier for them to remain vague if they don't have the substance. But if we are able to point at what should be done, which law has to be amended, which alinea, which paragraph of a legislation has to be amended, this is something which is very helpful for them, right? Rejected recommendations, that's indeed a problem because it allows government just to dismiss a number of recommendations. The only solution is to bring it back to the debate during the following cycle and to justify that the situation has evolved domestically and justifies a new consideration of that recommendation in the context of the UPR. You can use the fact that these recommendations rejected have been made by a number of delegations during the UPR, which highlights a relative concern by the international community that this is a real concern which has to be addressed, and just dismissing it is not the way forward. So even a rejected recommendation can also be an advocacy tool after the UPR, right? It shows that there is a concern, but it should also be reminded for the following cycle of the UPR, even though some states would contest that, but we don't care, we are NGOs, so we have to keep pushing for the issues which are important for us. Maybe one piece of advice in relation to how to make our recommendations more visible. Some NGOs include and some NGOs do not include recommendations in your 5-page submission to the OHCHR. I think that this document should include recommendations which are specific because this will be your main advocacy documents ahead of the actual debate of the UPR. So you should make sure that you include these recommendations into that document and that you circulate it to permanent missions in Geneva. You have the fax numbers, the email addresses on the UN in Geneva website, unoc.ch. So you can definitely promote your work through these devices, but you should also send these documents, the submission that you had forwarded to OHCHR with its recommendations to embassies in your own capitals and make sure that they know exactly why you promote and suggest some specific recommendations and why it is important for states to be more specific.
Yeah, là, et puis ensuite là.
Merci. Je m'appelle Abdoulaye Kane, donc je viens du Sénégal. Je vous remercie pour votre communication. Et il y a un élément important que j'ai retenu. Vous avez dit que l'EPU, ce n'est pas simplement un passage à Genève. Il y a un préalable. Le préalable, c'est d'abord la consultation qui se fait au niveau national. Et j'ai eu la chance de participer à deux dialogues sur le processus de l'EPU à Yaoundé au Cameroun et à Dakar au Sénégal. Et ce qui a retenu mon attention, c'est que la majeure partie des associations de la société civile qui ont été invitées à ce dialogue ignoraient carrément les mécanismes et ne savaient pas du tout ce qu'était l'EPU. Je pense, si on fait le pourcentage, c'est 5% des associations qui connaissaient, mais la majeure partie ignorait en partie ce qui se passait au niveau de ce mécanisme-là. Donc il y a un travail à faire au niveau de nos associations respectives, dans nos pays respectifs aussi, à développer ce préalable, c'est-à-dire la consultation inclusive. Vous avez parlé d'inclusion et nous devons effectivement nous y atteler parce que si on rate ce volet, cette étape, le travail risque d'être biaisé un peu par nos gouvernements. Et en Afrique, souvent, on a ce problème. Nos États font dans des bureaux le rapport sans inclure et impliquer les ONG, les associations de la société civile ainsi que les organisations non étatiques. Et ça peut effectivement créer un problème. Et je pense donc que nous, à notre niveau, nous devons, au niveau national, nous informer davantage nos associations partenaires dans les coalitions pour que effectivement nous ayons notre part, notre place à part entière dans le processus du dialogue inclusif. C'est simplement cela ce que je voulais dire pour partager avec les autres la réalité que nous avons souvent sur le terrain en Afrique. Merci.
Bonjour. Donc, je vous remercie pour votre communication. Moi, j'aimerais bien rebondir sur la question de mise en œuvre des recommandations. Donc, je crois qu'on a, par exemple, en ce qui concerne l'Algérie, on a fait de très belles recommandations. Mais je dois dire que même si elles sont acceptées, mais la réalité du terrain est tout autre. Donc, quand on parle de mise en œuvre de ces recommandations, je crois qu'il est très important de prendre en considération le contexte national, parce qu'on vient de pays différents. Donc, je crois qu'il faut vraiment prendre en considération ceci. Il est vraiment, quand on parle de suivi des ONG, de cette mise en œuvre, je crois qu'il est, du moins le cas de l'Algérie, il est très difficile de suivre cette mise en œuvre quand on a un gouvernement enfermé sur lui-même, donc qui ne communique absolument pas avec les organisations non gouvernementales. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien savoir comment peut-on, dans ces conditions, suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Je vous remercie. Donc, c'est Brahim d'Amnesty International Algérie. J'ai oublié.
Peut-être je vais répéter la même suggestion que précédemment, à savoir si il est difficile pour les ONG de s'engager elles-mêmes clairement ou de manière ouverte avec vos gouvernements dans le cadre de cette mise en œuvre. Une des solutions peut être, encore une fois, d'engager les gouvernements qui ont rédigé et émis ces recommandations lors de l'examen périodique universel, afin que ces gouvernements se sentent aussi responsables pour confirmer le poids politique que leur engagement lors du débat doit représenter. C'est aussi leur engagement de soutenir le travail des ONG, d'utiliser l'analyse des ONG pour évaluer la réalité de la mise en œuvre ou pas. Donc encore une fois, je sais peut-être que ce serait cette voie que je recommanderais à utiliser dans un cas comme celui-ci que vous avez mentionné. Là-bas.
Thank you for your presentation, your short but very concise presentation. My name is Judith Mulenga. I'm from Zambia. I work for Zambia Civic Education Association. It's an NGO that promotes and advocates children's rights. My country is going to be reviewed next week, and I was involved from the NGO side in the first cycle, and have been involved in the second cycle. And frankly speaking, I am losing faith in the whole process. I think it's business as usual, but this is business as usual done by governments, as opposed to the treaty bodies who have experts, who have a commitment and a passion, and would like to see, you know, human rights enjoyed or exercised by every human being, regardless of whatever, the non-discrimination stuff, because when I look at my country's report this time, the manipulation that my sister objected to, I clearly see it in the report, because my government has chosen to focus on the constitution review process and saying the good things about it, which is not responding to those issues or recommendations that would actually bring change in the people in the country. And they've answered the truth, you know, in the report. They say the truth, but it's not something that will bring change to the marginalized, the poor, the ones who are, you know, the vulnerable groups in our society. And they've talked about legal reform that was already in process at the time of being reviewed in 2008. So for me, that's a manipulation of the system. So it's business as usual. So we can go to Geneva and have this audience and everything. And from civil society, I see the excitement of the UPR from the first cycle, from us in civil society. Meanwhile, frankly speaking, it's not our process as basically, you know, because it's the government's, you know, and if our government says no, there's nothing we can do. So I see the excitement from us. I don't see it from the government itself. So what I picked from you was this is supposed to be a national process. So my question is, I would like to know which country or countries have an exemplary national process involving people at the national level, and things are changing at the national level. When I know that country, then my advocacy from now on will be with that mission in my country to see how what they've done in their own country can be replicated, you know, to Zambia. I mean, for example, the consultation on the UPR. We, civil society, were invited a day before. I remember receiving the invitation at 5:30, 17:30, and I was in the office because I'm normally the last to leave. And that's when I received the invitation, and the consultation was the following morning. So I couldn't turn up because I had prior commitment. But the government said we invited, and they did. So those are the kind of manipulations we're talking about. So is this a talk shop? Is it business as usual? Thank you.
Maybe I have a question for you, actually. Was it also business as usual from the NGO side, or was there an attempt by NGOs to make the process more valuable, having an impact on the government's approach?
Okay, I have a slot in the afternoon where I'll share our experiences. We're not sure in the first cycle. We're not sure what the process was about.
Yeah.
This second cycle, we're very excited. And in fact, about 6 weeks ago, we approached the missions in my country if we could, you know, have discussions with them so we could discuss the recommendations we had in our report. And then the mission said, oh, no, we can't meet each and every one of you. So we'll give you, you know, by GIZ, German Development, they organized a meeting, a one-day meeting, where we had to make very short presentations. There was not much time for engagement because all of us wanted to put our words in. And out of the diplomats that came, there were very few at a very, very high level. We had, you know, very low level, no disrespect, but, you know, people are not decision makers. Most of them are the ones who came to that engagement, you know, with us. So, yeah.
Mm, okay. States will always have an interest to make the UPR as much business as usual as possible. And we can see it in their reactions to the conclusions of the debates. They are trying to show that into and fine, that a lot of congratulations and prizes were shared. And this is the interest of the governments. But I think we have to look at how NGOs can be a driving force to change that. You mentioned the consultation process, which was quite problematic, and which officially was okay and open and transparent, and invitations were sent, but too late and just before the end of the drafting process of the domestic, of the national state's report. But can we as NGOs define what we want as well, quite well ahead of time? Can we tell our governments that we want several consultations, that several steps of the drafting of the government's report? Can we also ask our governments to organize thematic discussions on some of the issues that are problematic, and not only one big meeting with all NGOs, the general one and the specialized ones involved at the same time? That's also how can we as NGOs drive the process better? How can we tell our governments what we expect? And maybe with more open governments, that can work. Not with all, of course, but at least it can work with those which are more open to trying to look good toward their own constituencies and toward the international community. An example of process which works well for the implementation of preparation, I would think of Brazil, actually, as one of the good examples. And for example, as part of the follow-up process to the UPR, Brazil decided to merge the implementation process for the UPR recommendations and the implementation process for its national human rights action plan. So instead of having two different things working in parallel, you put the domestic process together with the international process or the result of the international process, and you engage stakeholders in an open way for this whole process, so that the UPR is not disconnected from what is actually happening on the ground. So I'm not saying that this is what will lead to full implementation of the UPR recommendations, but it can help making the UPR process less artificial.
Thank you. Alors, il y a une question là-bas au fond.
Et puis après, ici.
Ici, d'abord, et ensuite là.
Il y a trois, là.
Il y en a trois.
Abdoulaye Sow, je viens de la Mauritanie. J'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit qu'il faut mener une large concertation avec les gouvernements. Mais je vous dis qu'en Afrique, il y a des gouvernements avec lesquels on ne parle pas. On peut se mettre dans une même salle, on fait semblant de communiquer, mais on ne se parle pas. Parce que se parler suppose s'écouter, on ne s'écoute pas. Je vous donne par exemple où nous avions fait quand un État est d'une mauvaise volonté, c'est la mauvaise volonté. Nous, au niveau de notre centre, on a fait des recommandations spécifiques et mesurables sur l'effectivité du droit à l'éducation et deuxièmement, sur la scolarisation des petites filles issues des milieux esclaves. Qu'est-ce que nous avions dit à l'État ? La Mauritanie est un pays dans lequel tout le monde est musulman, mais il y a des nègres africains et des arabes. Quand vous me regardez, vous savez que je ne suis pas un arabe. Donc je suis un nègre africain. Ma langue est le poular. On dit, mais si nous voulons vivre ensemble dans un espace démocratique, moi je veux aussi que mon identité soit reconnue et affirmée. Comment on le fait ? Il y a trois lieux. Les lieux de diffusion de l'information, les médias. Les lieux de transmission, la connaissance, l'école. Et les lieux de décision du pouvoir, le gouvernement. Je veux être représenté ? Rien du tout. Rien du tout. Et nous avons des indicateurs concrets. On leur dit cela. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On amène quelqu'un, comme disait hier le professeur Luc en Zongo, je ne sais pas, le nom m'a beaucoup impressionné. On le met là-bas, on dit voilà, le groupe ethnique est représenté, l'ethnie est représentée, mais ça ne passe pas. Deuxièmement, nous avions voulu que les jeunes filles issues des milieux esclaves cessent d'être des petites filles qu'on place dans les familles, parce que dans l'Afrique traditionnelle, une fille issue d'un milieu pauvre pouvait bénéficier d'une famille plus aisée qui se charge de son éducation. Mais il y a eu cette perversion traditionnelle qui a fait qu'aujourd'hui, cette fille, elle est une force de travail. Elle est même un trousseau du mariage. Donc, elle est dans les familles, elle n'étudie pas. Quelle est la recommandation que nous avions faite ? On a dit, pour mesurer le droit à l'effectivité de l'éducation, il y a trois critères. L'accessibilité, l'adhésion et la dotation. On a dit, vous donnez aux mères de famille de l'argent pour laisser libérer la fille, mettre l'école à un lieu qui est accessible. Nous, on est de bonne volonté, nous sommes des enseignants. Nous ne demandons même pas à être payés. Nous voulons faire une alphabétisation fonctionnelle. À l'heure où je vous parle, l'État mauritanien n'a rien fait. Deuxièmement, vous dites aussi qu'il faut faire du lobbying auprès de certains pays. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas sur le plan international. Quand un pays a du pétrole, il viole les droits de l'homme. Les Occidentaux sont plus sensibles à cela. Quand on casse les monuments de Bouddha au niveau de l'Afghanistan, il y a une émotion internationale qui envahit l'humanité. Quand les rhinocéros blancs de l'Afrique du Sud sont en voie d'extension, on mobilise des fonds. Je respecte les écologistes, j'ai des amis défenseurs de la nature, mais des fois il y a des priorités. C'est le petit Africain qui meurt parce qu'il n'a même pas de quoi boire et manger. Et il ne faut pas aussi rêver. Les chefs d'État africains ont des coalitions très fortes. Dans certains pays comme la Mauritanie, s'il y a des élections, il y a des populations qui traversent pour aller voter pour l'autre président qui est au pouvoir. Comment voulez-vous casser la solidarité organique qui existe entre ces différents chefs d'État pour avoir des passerelles ? Nous ne baissons pas les bras, mais nous travaillons dans un univers vraiment chaotique. Je vous remercie.
Merci. Je suis Lydia Ouedraogo du Burkina Faso. Quand j'écoutais Brahima et puis j'ai écouté Abdoulaye, il y a deux situations qui se présentent. Il y a des États qui sont hostiles, en fait, à la collaboration avec les ONG, mais la stratégie est différente avec ces États. Il y a aussi des États qui se présentent comme des bons élèves. Eux, pour ces États, c'est encore plus compliqué, je veux dire, parce qu'ils ratifient tout à tour de bras. ils se présentent toujours comme ceux qui mettent les choses en œuvre et qui se donnent les moyens de les réaliser, en fait. Donc, la stratégie des ONG pour ces États est forcément différente. Et donc, lorsque les recommandations sont générales et vagues, ça ne nous aide pas et l'État a des échappatoires, en fait. Donc, ce que je voulais demander aussi, c'est pour ces États qui sont les bons élèves et qui souvent, bons élèves entre guillemets, hein, et qui souvent, face aux autres États, ils se disent, oui, ils sont bien, ils font des efforts, il faut qu'on leur donne des moyens. Quelle est la stratégie qu'il faut pour ces gens? Merci.
Peut-être une troisième question, et puis comme ça, on va...
Alors, Gaël, c'est la dernière. Okay. Et s'il y a-t-il encore une dernière question? Si ce n'est pas le cas, alors ce sera la dernière question pour cet échange ici.
Okay, I'm Jane Lassen. I come from Copenhagen, Denmark, but I work in the former Soviet Union with media development. You raised an issue or a part of a tactic where you say that you could engage the embassies of the governments that had put pressure on the respective government. One example of mine is from the Caucasus, where we have tried to establish platforms for dialogue with the respective national government. This has not been possible, very related to what has just been said. That government simply does not want to talk to us. We have tried to engage the embassies in the respective country to put pressure on the national government to talk to us in this dialogue platform. It has not really worked because the embassies, they are not only out there for human rights, they are often out there for oil and trade. So my question is, what is a useful tactic to actually approach an embassy in a respective country and ask them for a meeting? And what would you say to them in order to get them to put pressure on the national government which hosts them?
I might respond to your question first. Did you approach them as well? Did you approach these embassies as well in Geneva?
No, and this, I don't know how to do that.
Okay, well, maybe that would be a good attempt to also ensure that you're more listened in the Caucasus country you mentioned by foreign embassies. Because Geneva is more aware about what the mechanism is and may facilitate, you know, make yourself being listened by the bureaucratic, more difficult bureaucratic administration. So try to meet with them in Geneva as well, because Geneva is might be populated by diplomats who are more empowered by the need to make the UPR useful. And if Geneva decided to put forward a recommendation, they might also feel that they have a responsibility to promote a better engagement of their... So I don't know. Maybe engaging with Geneva could be a way to make your voice more listened to. And how to approach them, you can quite simply ask for a meeting with the human rights experts of the embassy here by calling the mission concerned and requesting that meeting. It's quite easy for NGOs to have short meetings of 20, 30 minutes with human rights experts, so that could be a way.
So what I'm hearing you say is by approaching, e.g., the German representation here,
yeah,
they can help me to get into the German representation there to put pressure on that government to have
a
meeting with us.
I would hope so.
Okay, thanks.
Well, we have to use all possible avenues, right? And to respond to your question, you're totally right. Vous avez complètement raison. Beaucoup d'États cherchent à se faire mousser en quelque sorte dans le cadre de l'examen périodique universel. Et vu la moyenne internationale de respect des droits de l'homme, c'est vrai que c'est assez facile de s'attirer certaines faveurs diplomatiques. Comment faire avec ces États-là? Peut-être simplement... Ouais. Il n'y a pas de recette unique, malheureusement. Et donc, c'est un petit peu difficile pour moi de répondre. Il faut peut-être utiliser cette recherche d'être perçu comme un bon élève pour aller plus loin, potentiellement, et pour démontrer que la réalité n'est pas si verte pour ces pays concernés. voilà, je pense que j'ai pas de réponse extrêmement précise, mais voilà, chaque contexte national doit avoir sa propre stratégie. Et puis finalement, peut-être pour conclure, la manière avec laquelle chacun des gouvernements se comporte dans le cadre de l'examen périodique universel reflète sa stature, sa posture face aux droits de l'homme. Certains gouvernements vont chercher à se montrer comme des bons élèves. Certains gouvernements vont être réellement transparents, d'autres vont être complètement clos. Certains ne vont pas dire la vérité. Et finalement, le PU reflète, dans tous les cas, ce qui est la réalité du comportement de vos gouvernements par rapport aux droits de l'homme de manière beaucoup plus générale.
Est-ce que vous avez un autre élément de conclusion ?
Non, ça va.
Okay. Bon, je vais prendre la suite.
Okay. Très bien, merci beaucoup pour cet échange. Je crois qu'il était très riche et très utile. Je vais peut-être aussi amener une conclusion à cette discussion en amenant encore quelques éléments supplémentaires dans ce qui vient d'être dit. Je crois que ce qui est très important par rapport à l'EPU, alors c'est vrai que toute cette semaine nous sommes concentrés sur le mécanisme de l'examen périodique universel, mais hier dans la première phase introductive nous avons beaucoup aussi insisté sur les autres mécanismes qui existent pour de nouveau ne pas avoir, et ça c'est un des problèmes auxquels on est confronté parfois, c'est que comme l'examen périodique universel a un volet public ouvert, le fait que l'État soit mis en cause par d'autres États, enfin, est discuté, que c'est ouvert au public, aux médias et autres, évidemment, c'est un impact plus important à l'intérieur des pays que, par exemple, certains examens ou certaines discussions que l'on peut avoir dans le cadre des comités conventionnels, parce que certaines discussions sont simplement faites entre experts, entre ONG expertes elles aussi, et ça a très très peu d'impact public. Donc du coup, l'entrée sur ce genre de questions pour le public se fait via l'examen périodique universel ou pour certaines organisations, et on a tendance à reporter sur l'examen l'ensemble des attentes que l'on peut avoir en matière de protection des droits fondamentaux. Or, clairement, l'examen périodique universel n'est qu'un des mécanismes existants pour la mise en œuvre, à côté desquels vous avez d'autres éléments universels comme les comités conventionnels, comme d'autres mécanismes du Conseil lui-même, comme par exemple pour des situations d'urgence, les sessions spéciales, etc., etc. On en a aussi parlé hier, des rapporteurs spéciaux qui, eux, sont actifs très rapidement, peuvent faire des déplacements sur le terrain. Donc, de nouveau, il est très important de toujours bel et bien mettre l'examen périodique universel à l'intérieur d'une stratégie globale. L'examen périodique universel n'est pas la stratégie et n'est pas le simple canal que l'on va utiliser en matière de protection des droits de l'homme dans ce qui existe au sein des Nations Unies. En plus, il faut aussi toujours y ajouter les mécanismes régionaux dont certains peuvent être, suivant les situations, ça dépend, plus effectifs, avoir plus d'impact que certains des mécanismes universels. Il y a à chaque fois une évaluation, et ça, elle évolue en fonction des situations, en fonction des thèmes, en fonction des pays, donc on ne peut pas donner de règles générales. Par contre, ce qui est général, c'est de ne pas prendre l'examen périodique universel de façon isolée, ça doit toujours faire partie d'une stratégie d'ensemble. Sinon, alors là, effectivement, on court vers toute une série de désillusions. La deuxième question qu'on doit toujours se poser ensuite, c'est mais qu'est-ce qu'apporte de spécifique l'examen périodique universel par rapport aux autres procédures ? Qu'est-ce qu'on peut demander à l'EPU ? Qu'est-ce qu'on doit essayer de faire à l'EPU ? Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres procédures ? Alors, le premier élément qui est souvent qu'on va donner comme élément de critique, mais c'est que l'examen périodique universel, c'est un processus politique. Alors que les autres sont des processus soit parajuridiques, soit même judiciaires pour certains mécanismes régionaux, et donc ils vont suivre une autre logique. Mais il ne faut pas avoir une analyse négative quand on dit politique, en disant ah ben, comme c'est du politique, donc c'est négatif, et donc on doit uniquement prendre les autres mécanismes. Non, le politique doit être ajouté aux autres mécanismes, et c'est en ce sens qu'il faut voir qu'est-ce que l'on peut attendre de l'examen périodique universel, par justement sa nature politique. Je crois que le petit mot qui était dit en introduction par Philippe, qui reprenait la phrase d'une de nos collègues prononcée hier, qui dit qu'on devait passer d'un mécanisme d'examen par les pairs à un mécanisme d'engagement entre pairs, est une évolution très intéressante, très générale. Et pourquoi ? Parce qu'elle montre que l'examen périodique universel doit être quand même vu, notamment parce qu'il nous permet de faire une évaluation globale de la situation des droits fondamentaux dans le pays examiné, que ce soit le nôtre ou que ce soit un pays auquel on contribue à l'examen, et que de cet examen global doit être tiré un certain nombre de priorités. Et c'est justement là qu'il y a une différence dans l'approche que l'on va avoir par rapport à ce que peut faire un comité conventionnel. Si on, quel que soit le comité, que ce soit droit de l'enfant, droit de la femme, que ce soit droit économique, sociaux et culturel, là au contraire, on va lister les obligations que l'on a dans le traité et on va essayer de voir comment est-ce que chacune des obligations est correctement traitée. On peut aussi avoir des priorités à l'intérieur de ces obligations, mais donc on va aller dans le détail et on va voir en processus, et certains d'entre vous l'ont bien décrit dans vos questions, on va aller dans le détail. Par contre, c'est exactement ce que l'on ne va pas faire à l'EPU. Et ça, c'est un des problèmes que l'on a. C'est d'ailleurs un problème, on aura l'occasion d'y revenir peut-être déjà cet après-midi, parce que quand on est dans une coalition sur un sujet bien précis et qu'ensuite on doit faire cette évaluation, peut-être qu'on a ce problème-là. C'est que le sujet sur lequel on travaille est un sujet important, mais peut-être pas un sujet qui doit être considéré comme étant la grande priorité. Et sachant que cette priorité, elle sous-entend quelles sont les priorités sur lesquelles on pense qu'il serait véritablement utile et important d'avoir un impact des autres pays pour qu'il y ait un changement. Dans les discussions qu'on a eues hier, j'ai eu l'occasion de prendre un exemple pour la Suisse, où clairement on a une coalition sur des problèmes d'objection de conscience qui existent, on a de réelles difficultés sur un certain nombre de points, mais réellement en tant que militant droit de l'homme et en tant qu'objecteur moi-même, je ne pense pas que c'est le sujet politique dont on doit parler avec les autres États. Donc c'est très bien de le mentionner pour lui donner un petit peu de publicité, c'est bien qu'il soit dans un rapport, on le mentionne, ceux qui vont travailler là-dessus peuvent éventuellement réutiliser leurs documents par la suite, mais si jamais le débat politique entre États va porter sur ce point en particulier, alors là on a raté le coup. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas une priorité que l'on doit discuter, on va en discuter dans tel comité, on va en discuter à tel endroit, on ne va pas en discuter au niveau de l'examen périodique universel, c'est un problème, mais ce n'est pas une priorité. Alors ça, je peux en parler pour ma propre situation, mais de nouveau, l'examen périodique universel doit nous forcer à établir un certain nombre de priorités. Et du coup, un des travaux qu'on doit faire dans le deuxième cycle, c'est par exemple de ne pas se faire noyer non plus par l'ensemble des recommandations. Là, on a un travail, nous, d'analyse des différentes recommandations et nous aussi d'aider les États à dire, écoutez, il y a plein de recommandations, c'est très bien que vous les ayez faites, elles sont pertinentes et tout, mais ce n'est pas peut-être celles sur lesquelles on doit se concentrer. Il y a un dialogue qui est limité, il y a un travail qui est limité, donc il faut le concentrer sur les principales priorités. Donc, le suivi des recommandations que l'on doit faire ne doit pas forcément être un travail d'analyse de l'ensemble, et ça, je l'ai vu comme travail qui a été fait. C'est un boulot énorme, et je ne suis pas convaincu qu'il soit utile. Donc ça, c'est un vrai problème de gestion de nos propres ressources. Il faut, dans l'ensemble des priorités qui ont été faites par les États, établir quelles sont, nous, nos propres priorités, que l'on veut voir aujourd'hui suivies en tant qu'engagement que les États vont prendre entre eux. De nouveau, là, c'est une stratégie politique que nous devons nous donner, nous, pour utiliser de façon utile cet examen périodique et se concentrer. Et là, nous avons, et je crois que c'est ressorti dans ce que vous disiez et dans ce que disait Philippe, nous avons, nous, un élément très fort qui n'est pas simplement l'expertise globale que l'on peut donner, que les diplomates ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne sont pas en position de l'avoir. Mais en plus de ça, nous avons justement ce lien avec le terrain. Alors après, il y a un problème interne dans nos propres ONG, c'est pour ça que ce sera important d'en discuter aussi entre nous, c'est qu'évidemment, toutes les organisations n'ont pas forcément le même type d'expertise. Il y a des organisations qui sont très juridiques, et des fois, elles ont tendance à prendre le dessus parce que précisément, c'est elles qui peuvent le mieux manipuler ces terminologies, entrer en dialogue avec les organisations internationales et autres, mais du coup, elles n'ont pas forcément, elles, l'expertise du terrain, parce que ceux qui travaillent sur le terrain, il leur manque précisément cette terminologie juridique et tout, ils ne savent pas comment la traduire, et du coup, nous, à l'intérieur de nos coalitions ou de nos propres travaux, on a des hiatus entre ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent apporter cette information, et ceux qui vont dialoguer avec des instances, qu'on va dire externes ou autres, et qui n'ont pas cette même expertise. Donc là, de nouveau, priorité, mais aussi lien avec le terrain, pour se dire, voilà, on pense que c'est important que tel et tel et tel élément soit discuté en priorité entre États et qu'une pression par les autres États soit faite sur notre gouvernement, sur ces points, parce que voilà comment ça se passe sur le terrain. Et ce genre d'approche doit essayer de contourner ce qui a été très très bien décrit, comment est-ce qu'un gouvernement de façon automatique, mais ça c'est pas uniquement de la manipulation, on l'a même ici chez nous, la principale chose que fait un gouvernement c'est de travailler avec les lois, quand il engage un travail de changement législatif, souvent et même ici, le gouvernement croit qu'il est en train de changer la réalité. Or, après, la législation a été changée, mais pas la réalité. Et le gouvernement a dit, mais moi, j'ai fait tout mon boulot parce que je suis passé par les lois.
Et ça, c'est même un débat interne qu'on peut avoir. Ce n'est même pas une question de débat avec l'international. Donc, de nouveau, le fait de prendre les engagements, de faire le rapport par rapport à ce qui se passe sur le terrain est quelque chose que nous pouvons apporter. Et ça doit, et là, je crois que Philippe, je veux vraiment souligner ce qu'il a dit parce que c'était important, ça doit être dans nos propres contributions. Et donc, cet élément de rapport avec le terrain doit être dans nos contributions. On aura l'occasion de discuter cet après-midi avec Jean-Claude Vignoli et puis ensuite demain avec Roland Chauville sur le travail qui est fait avec UPR Info. UPR Info fait aussi un travail, essaye de faciliter le travail de suivi des recommandations par les ONG, notamment, et il insiste là-dessus, je sais parce que Jean-Claude va m'en guirlander cet après-midi, parce que je dois toujours un document là-dessus, justement pour un certain nombre de pays, de faire le suivi. Mais qu'est-ce que vous avez comme information du terrain ? Parce qu'à la limite, faire un travail formel de dire est-ce que l'État a suivi ou pas, on arrive à le faire, depuis même des fois à l'extérieur, mais on ne sait pas si c'est la réalité du terrain. Donc ça, c'est ce que nous pouvons apporter, qui est particulier et qui doit se retrouver dans les rapports que nous faisons, nous, dans les contributions que nous voyons au processus de l'EPU, y compris, et là j'insiste aussi sur ce qu'a dit Philippe, le fait que dans les contributions, on ait déjà la formulation exacte de la recommandation. C'est-à-dire que puisqu'on constate cette réalité sur le terrain, voilà comment on pense que la recommandation doit être formulée à notre gouvernement pour qu'elle soit effective sur le terrain. Or, et là j'insiste parce que c'est un peu notre propre autocritique, après une année de travaux, nous avons, et j'en fais partie, je suis aussi cible de cette critique, dans les rapports et les contributions qu'on a pu donner, finalement des fois des éléments très généraux, des appels très généraux, et ensuite quand on a fait le lobby, là on l'a formulé de façon précise. Mais on ne l'avait pas déjà formulé de façon précise dans le rapport lui-même. Ça, c'est une sorte d'erreur, parce que finalement, on s'est privé d'un instrument de lobby. Ça veut dire qu'un autre État qu'on n'a pas pensé contacter, mais qui serait intéressé par notre rapport, n'aura pas cette formulation dans le document. Donc là, de nouveau, c'est un élément qui est important. Ensuite, autre point sur lequel on reviendra, parce que c'est un des objectifs même de l'approche que nous faisons par rapport à l'EPU, pour justement les questions de formation et de sensibilisation, c'est le débat public. Le fait d'essayer, ce qui est intéressant dans l'examen périodique universel, c'est d'avoir ce débat public sur l'état des droits fondamentaux dans notre propre pays, enfin dans le pays, si on prend notre propre pays, ou dans le pays sur lequel on travaille. Il est évident que certains gouvernements ne sont pas du tout intéressés à cela, donc il y aura des résistances objectives, donc il faut voir comment mener ce débat par d'autres biais. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'examen périodique universel donne une possibilité extérieure au pays, puisque le pays ne le permet pas, de mener ce débat. Mais malheureusement, on se rend compte que même dans des pays où on peut mener ce débat n'a pas lieu. Donc il y a encore un travail que nous avons à faire, et ce n'est pas toujours uniquement à cause des gouvernements. Il ne faut jamais oublier que la nature de tous nos gouvernements sur la planète aujourd'hui est toujours une nature qui fonctionne par des compartiments spécialisés. Tous, absolument tous. Ce qui fait que ce qui va être par exemple fait par les ministères sociaux n'est pas connu par ceux qui, les affaires étrangères, qui sont eux qui vont rapporter sur les questions sociales dans un tel ou tel type de débat. Même à l'intérieur d'un gouvernement, et ça on en a fait l'expérience dans plein d'États, de faire un bilan global de comment est-ce que tout le monde travaille en matière de droits fondamentaux dans le gouvernement, même simplement en faisant la liste des points positifs. On n'arrive pas forcément à le faire, parce qu'il n'est pas sûr que tel ministère ait envie de donner ses informations à tel autre. Si je te les donne, alors qu'est-ce que tu me donnes en retour? Enfin, etc., etc. Ça, je parle de dynamique interne au gouvernement. Ça pose un véritable problème. Et ça, je vous parle d'événements qui ont eu lieu dans des gouvernements ouverts, démocratiques, tout ce que vous voulez. Alors imaginez en plus de ça, quand on est dans une dictature, c'est évidemment encore plus simple de bien cloisonner les choses pour que ça passe pas. Donc là, il y a un instrument qui est intéressant pour mener ce débat, telle façon aussi qu'à l'extérieur ou à l'intérieur, on arrive à avoir ce débat sur quel est l'état des droits de l'homme dans le pays et comment est-ce que la société civile du pays voit ses propres priorités. Et donc ce débat public, il ne peut pas lui être mené uniquement par à-coup tous les 4 ans. C'est donc un effort qui doit être permanent. Et là, on a aussi des instruments dans le processus de l'EPU qui peut nous aider. C'est notamment les rapports intermédiaires. Plusieurs États maintenant font, et ils ne sont pas assez nombreux, donc il faut encourager ceci, font des rapports intermédiaires après 2 ans. Dire voilà à peu près, nous, on en est dans la mise en œuvre des recommandations qui ont été émises. Voilà comment nous le faisons. Et si les États ne le font pas, les ONG peuvent, elles, essayer de faire ces rapports intermédiaires et de les diffuser. Donc là, il y a, et de nouveau, l'intérêt du rapport intermédiaire, c'est de faire le point avant les 4 ans et c'est de conserver, de garder ouvert le débat sur l'état des lieux dans le pays. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est très très important. Et je conclurai sur un point, parce que plusieurs d'entre vous l'ont mentionné et Philippe a commencé à apporter un certain nombre de réponses. C'était notamment le lien avec les mécanismes financiers ou les mécanismes de développement. Alors, premier point qu'il faut avoir en tête, quand je parlais de compartimentation, c'est que ce sont deux domaines qui sont très différents. C'est-à-dire que le domaine du développement n'a pas encore été totalement contaminé par le domaine des droits de l'homme ou des droits fondamentaux, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et cette compartimentation, vous l'avez au sein des Nations Unies, où il n'est pas toujours sûr que les représentants du programme des Nations Unies, donc du PNUD, soient toujours ouverts. Certains le sont, ils font un travail remarquable, d'autres pas du tout, ils sont même totalement fermés. Il y a eu des grands progrès qui ont été faits, mais on a encore ce genre de difficultés. Mais on a ce même problème à l'intérieur des gouvernements, il n'est même pas sûr que les affaires étrangères soient toujours en cohérence avec la politique qui est faite par tel et tel État en matière d'aide au développement. Nous avons aussi ce problème au sein des ONG. Les ONG qui travaillent dans le domaine du développement ne sont pas toujours ouvertes aux questions de droits fondamentaux que nous faisons. Et alors après, on peut passer un temps infini à se faire des reproches réciproques. On a la même chose pour l'environnement qui était mentionné tout à l'heure. Comme c'est un des domaines de travail, j'y suis confronté quotidiennement où on peut toujours se faire des reproches réciproquement. Donc là, on a un travail de nouveau avec le bilan global qu'on peut essayer de faire grâce à l'EPU, d'essayer de surmonter en partie cette compartimentation. Et je crois qu'un travail qui peut être fait, quand vous parliez des difficultés que vous avez à mobiliser les ambassades sur le terrain, je crois que c'était très pertinent ce qui a été présenté, là aussi, on doit pouvoir s'aider entre nous à l'intérieur des ONG, c'est-à-dire que vous avez des organisations, si on avait mentionné l'exemple de l'Allemagne, alors continuons avec l'Allemagne, il existe en Allemagne des ONG qui font un travail de suivi très important de l'aide au développement allemande. Il peut être très utile d'essayer de faire des liens avec ces ONG, parce qu'elles peuvent faire un suivi qui, lui, a un impact et sera entendu par les représentants allemands, de contacter eux-mêmes l'ambassade. Nous, on l'a déjà fait, je sais aussi, pour l'EIP avec certaines des organisations, en disant « Ah, mais on sait que dans une semaine, la semaine prochaine, vous allez rencontrer un tel, on était au courant, on est très intéressé. » Là, tout de suite, ça change la manière dont l'ambassade prend les choses, parce qu'elle sait que ce qu'elle va dire, comment elle va se comporter pendant cette réunion, ça va avoir un impact et donc ça va revenir au pays. Donc là, tout de suite, la mobilisation de l'ambassade sur le terrain, elle va se faire de façon différente. Donc de nouveau, on voit bien que l'EPU, ça doit faire partie d'une stratégie d'ensemble, ça doit faire partie d'une stratégie de longue durée, donc on doit intégrer ça dans notre travail, et qu'ensuite, il y a toute une série de petits mécanismes qui feront leurs effets si on arrive à intégrer ceci dans cette stratégie d'ensemble. Et je termine, parce que pour nous, c'est un des points importants dans cette formation, cette stratégie d'ensemble ne doit pas être simplement faite de façon fermée entre ONG spécialisées, comme on l'est un peu ici, mais parce que là, on veut s'aider les uns les autres et travailler sur le mécanisme, mais doit se faire avec d'autres partenaires, précisément pour que ce soit toujours un débat aussi ouvert que possible. Voilà, c'était les quelques points que je voulais apporter en complément à ce qu'avait donné Philippe et à, je crois, l'échange qu'on a eu de questions-réponses qui était très, très riche et très, très important. Et je vous remercie encore de votre attention pour cette discussion et je remercie Philippe pour tout l'apport qu'il a pu nous faire.
Bien, il est allumé ?
Oui.
Juste une petite information, merci Philippe, merci Yves. Je ne vais pas remercier à chaque fois nos intervenants. Je vais juste vous donner une ou deux indications. Cet après-midi à 14h, il y a une liste d'adresses qui va circuler. Vérifiez vos noms et vos adresses. Je vais confier cette liste à Marguerite, qui fait partie de l'EIP, et qui va vérifier bien, parce que c'est très important pour nous, pour que vous puissiez avoir la liste d'adresses corrigée. Je voulais juste souhaiter la bienvenue à Fatouma Taki, qui nous a rejoint. Sa santé va mieux, merci. Bienvenue Fatoumata. Tu n'as pas pu assister à la présentation des participants, mais tu auras le temps maintenant de te présenter. Je vais vous demander, comme pour hier, vous pouvez laisser vos documents ici, je ferme la porte à clé. Je vous demanderai par contre de débarrasser vos tables, parce que nous ne sommes pas esclaves, nous aussi FEDOP, donc vos tables, vos tasses, vos verres, s'il vous plaît. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Et puis, ben, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve ici à 14h.
ça l'est aussi, les éléments que j'ai apportés en plus ou...
Ah oui, bien sûr.
Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que nous, on a des gens qui sont... On a un double défi parce qu'ils ne sont pas forcément... Pas, beaucoup sont engagés dans des coalitions nationales. Je la sens savoir-faire. Mais nous, en plus de ça, on ne veut pas refaire une formation qui sera faite par le service ou d'autres, focalisée sur le rapport, les détails et tout. Nous, c'est beaucoup plus des questions de sensibilisation et d'éducation qui vont... C'est pour ça qu'après, j'ai voulu moins insister, parce que nous, la notion du débat public qui va être fait autour, elle est cruciale. Et je pense que c'est là que les pays... Vous l'avez dit, toi aussi. Et nous, du coup, c'est là-dessus qu'on nous, on se concentre. Donc on a fait une première partie hier de mise à niveau pour s'assurer que tout le monde ait une bonne connaissance du mécanisme. Enfin, certains...
Comment ça?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà eu des examens chez eux, mais ils viennent de rejoindre la coalition. Donc on a quand même toujours la dimension.
Ça marche.
Tu manges pas avec nous alors, hein? On n'a pas le temps.
Yves, tu manges avec Randa, il faut toujours pas pour faire.
Tu connais pas le milieu de la recherche?
Ouais, c'est que tu dis que tu manges avec.
Oui. Je vais manger normalement avec Josh. Donc,
à bientôt, à la prochaine.
Ok. Alors, super. T'es bien, t'es heureux. Et très bien. C'est un peu là. Parce que tu as remarqué beaucoup.